Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h20, alors ce soir dans le débat du Club des Idées, quand la parole se libère, on va s'arrêter ensemble sur cette onde de choc et les réponses surtout apportées par le gouvernement, c'est la nouveauté, face aux agressions sexuelles d'enfants et à la question spécifique de l'inceste. Cela concernerait, je le rappelle régulièrement, 10% des Français, 10% des Français victimes d'inceste. Alors les réponses du gouvernement sont-elles à la hauteur des enjeux ? Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance, nous les révélait hier soir en exclusivité au micro d'Europe 1. Prescription, seuil d'âge, inscription de l'inceste dans le code pénal. On en parle donc ce soir avec nos invités. Muriel Salmona, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie, auteur du livre noir des violences sexuelles aux éditions Dunod, sorti en octobre 2019. On en parle également avec Martine Brousse. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes présidente de l'association La Voix de l'Enfant et puis Andrea Bescon, autrice, réalisatrice, nous rejoindra dans quelques instants. Alors, on va revenir sur la réponse pénale et ces annonces donc détaillées du gouvernement qui changent la donne tout de même. D'abord, un mot peut-être du constat général. Hier soir, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, parlait de tournant.
Notre société vit un tournant. On est en train de fissurer cette espèce de chape de plomb, notamment idéologique, qui interdisait à la parole des victimes de se libérer. Les réseaux sociaux ont permis cela. Attention, la justice ne se rend pas, vous le savez, sur les réseaux sociaux.
Mais le président a annoncé que ça allait se traduire dans le droit, qu'il y aurait des décisions.
Mais naturellement, parce que la société nous conduit à changer le droit.
Un tournant. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat d'abord, Muriel Salmona ?
Oui, tout à fait. C'est le terme d'ailleurs que j'ai utilisé très tout de suite. Pour moi, c'est un tournant historique qui effectivement permet. Alors, non pas. Enfin, libérer la parole, elle était déjà là des victimes, mais en tout cas, d'ouvrir. Que les gens ouvrent les yeux sur cette réalité-là, et surtout de briser tout le déni et de démonter effectivement toute la propagande anti-victimaire qu'il pouvait y avoir. Et en fait, que tout le monde se place résolument du côté des victimes. Ça, c'est un élément.
Mais vous pensez, Martine Brousse, on va rentrer après dans le détail des mesures et je vais vous demander votre avis, évidemment, car elles sont importantes. C'est une réponse pénale, c'est une réponse judiciaire, mais est-ce que ça peut changer la donne sur l'écoute et la libération de la parole qu'on observe aujourd'hui massivement ? Mais c'est ça qui a été tabou pendant longtemps, c'est de ne pas entendre les victimes. Il y avait une forme d'omerta autour de cette parole libérée.
Vous dites justement, ou le garde des Sceaux l'a dit lui-même, nous sommes à un tournant. Mais c'est un long chemin, et que sur un chemin, il y a beaucoup de virages et des tournants. Moi, je voudrais quand même rappeler qu'il y a des professionnels qui travaillent depuis des décennies sur ces questions. Notre porte-parole, l'autre jour, disait Carole Bouquet, il y a 30 ans, quand je soulevais ces questions-là, on me traitait de folle.
Oui.
Ce que je veux dire, c'est que pour être en contact permanent avec ces pédiatres, médecins légistes, avec ces magistrats qui recueillent la parole de l'enfant, il y a des expériences, il y a des pratiques aujourd'hui positives. Donc nous sommes certes à un tournant qui doit nous permettre de renforcer un certain nombre de mesures pour véritablement non seulement libérer la parole, mais si on ne fait pas de prévention, on ne libérera pas la parole. Alors c'est vrai que la Voix de l'Enfant se réjouit des mesures qui ont été annoncées hier, mais il va falloir aller beaucoup plus loin. On ne peut pas se limiter à l'inceste. Des violences sexuelles, il y en a de toutes sortes. Et il faut prendre l'enfant dans sa globalité, dans sa souffrance, au regard des actes qu'il a subis.
Alors, avant de vous entendre, Andrea Bescon, vous nous avez rejoint. Merci d'être avec nous. Vous êtes, je le rappelle, autrice, réalisatrice. Vous avez vous-même été victime de viols lorsque vous étiez enfant. Une histoire que vous avez écrite et mise en scène au théâtre dans une pièce absolument remarquable, avant de l'adapter au cinéma dans le remarquable film aussi, Les Chatouilles. D'abord, je voudrais vous faire écouter un témoignage, parce que ce qu'on observe aujourd'hui, c'est que ces affaires médiatiques ont une incidence sur les victimes et libèrent la parole. C'est le cas du témoignage d'une maman qui avait peur de parler, sa fille a été victime d'inceste. Elle s'exprime au micro d'Hélène Terzian. C'est l'affaire Duhamel qui a tout remué en elle. On l'écoute.
Je découvre que mon frère a abusé de ma fille quand ma fille avait 4 ans et demi, sur la simple vue d'une photo découverte il y a un mois et demi. Ça me fait naviguer dans tout un tas d'états. Ça me fait beaucoup de bien parce que je me dis oui, on peut parler, on peut le faire, on a le droit de le faire. Et de l'autre côté, ça fait un mal de chien et ça pose question pour les conséquences. Parce que là, l'auteur présumé dans cette affaire Duhamel, sa vie est détruite. médiatiquement. Et donc moi, je me dis, si moi je parle, ça me terrorise encore plus, parce que dans ma petite sphère familiale, je me dis, je vais détruire, mais j'ai peur que ça me retombe dessus aussi.
Voilà, témoignage très fort, Andréa Bescon. Est-ce qu'on en a propos peut-être général d'abord, pour commencer, avant de rentrer dans le détail des mesures annoncées par le gouvernement? Est-ce que, selon vous, même question, on en a fini avec le silence, j'allais dire coupable, aussi de la société?
Non, mais en tout cas, il y a un réveil. La libération de la parole, elle existe depuis longtemps, hein, quand même.
Maintenant, mais on ne l'entendait pas beaucoup.
Non, mais en tout cas, on ouvre mieux nos oreilles aujourd'hui. Je pense que la société est un peu plus disposée à entendre ce qui se passe. Ça fait quand même des années, je veux dire, Thomas, il y a beaucoup de monde qui a évoqué les violences sexuelles qu'il avait subies dans l'enfance. Donc oui, on est quand même, encore une fois, un tournant. Maintenant, il faut être vigilant et entamer les mesures nécessaires au niveau législatif, bien sûr, mais aussi sur les formations, mais aussi sur la prévention. Enfin voilà, attaquer le problème vraiment à bras-le-corps, revenir aux racines de la violence.
Vous avez raison de dire que la parole est libérée depuis un moment, mais quand je parle de silence coupable, je pense à tous ceux qui, au moment de la révélation de l'affaire Duhamel, un grand pénaliste notamment, pour ne pas le citer, qui disent « nous savions, mais nous n'avons rien dit ». Est-ce que ça, c'est fini aujourd'hui ?
Je l'espère vivement, puisque ça fait partie du fléau. C'est-à-dire que les pédocriminels vont utiliser cette honte de parler, cette complaisance, cette forme de discrétion, entre guillemets, autour de ce qui se passe à la maison ou dans des cas isolés. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on voit que c'est tout un système. Et ce système-là doit être porté par tous, tout à chacun. C'est chaque... Personne dans cette société doit prendre conscience aujourd'hui du regard à poser sur ce fléau, quoi.
Oui. Pourquoi c'est si dur de parler, Andréa Bescon ?
Pour beaucoup de raisons. D'abord, des fois, quand on est victime, vous voulez dire, hein,
oui,
c'est ça ?
Oui.
Ce qui est compliqué, d'abord, il y a plusieurs facteurs. Hein, Muriel Salmona en parlerait mieux que moi, hein, mais il y a d'abord l'amnésie traumatique, hein, qui concerne énormément de victimes de violences sexuelles dans l'enfance. C'est-à-dire que pendant parfois des décennies, on peut avoir complètement oublié ce qui nous est arrivé. Et puis ensuite, les viols reviennent avec une précision clinique. Et donc ça nous empêche pas de parler. Mais évidemment, il y a aussi la honte, la culpabilité que l'agresseur nous a fait porter en tant que victime, la peur de désintégrer sa famille, la peur de désintégrer ses proches, la peur d'être rejeté aussi, puisque ça arrive bien souvent, malheureusement, on le voit dans beaucoup de familles, que les personnes qui révèlent les violences sont celles qui sont rejetées. On fout la merde, en fait.
Oui.
Donc oui, tout ça est à changer, ce rapport-là. Alors, comme disait encore une fois Muriel Salmona tout à l'heure, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit que les victimes parlent et qu'elles sont quand même mieux accueillies. Avant, on était quand même un peu plus insultées. Aujourd'hui, ça change, quoi.
Alors, vous restez avec nous, Andréa Bescon. On reste avec, évidemment, nos invités. On marque une très courte pause et on se retrouve dans quelques instants et on va rentrer dans le détail de ces mesures annoncées par le gouvernement. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h30, passé de 1 minute, la suite du débat du Club des Idées. Quand la parole se libère, on parle ce soir ensemble de cette onde de choc et des réponses aussi apportées par le gouvernement. C'était hier soir, à ce micro, en exclusivité, Adrien Taquet, secrétaire d'État chargé de l'enfance, nous révélait donc les mesures que s'apprête à prendre le gouvernement pour mieux punir ces crimes sexuels contre les enfants. Adrien Taquet, qui est notamment revenu sur la mesure autour du seuil d'âge. Écoutez-le.
Le gouvernement est favorable aujourd'hui à ce que soit défini effectivement un nouveau crime, c'est-à-dire que tout acte de pénétration sexuelle commis par un majeur sur un mineur de 15 ans est un crime sans qu'il ne soit plus question de consentement. Aujourd'hui, c'est l'âge de la victime qui sera la première chose qu'on interrogera et non pas de savoir si la victime était consentante ou pas.
Martine Brousse, vous êtes présidente de l'association La Voix de l'Enfant. C'est une avancée évidemment très très importante. Alors, il y avait une polémique au Sénat notamment sur un seuil d'âge fixé à 13 ans. C'est 15 ans qui sera finalement retenu par le gouvernement. J'imagine que vous accueillez cette mesure très très favorablement.
Nous nous félicitons de cette mesure que nous appelions de nos voeux depuis des années. Et nous l'avions fait aussi dans le cadre d'une mission pluridisciplinaire qui avait été mise en place par le précédent Premier ministre au moment de la loi de 2018, où nous voulions déjà, et je sais que Mme Salmona
avait renoncé aux 15 ans. Ça coincé avec le Conseil d'État, me semble-t-il.
La Voix de l'Enfant est très claire là-dessus. Elle demande un seuil de 15 ans avec circonstances aggravantes en ce qui concerne les situations d'inceste. Et elle demande aussi qu'on prenne le temps d'étudier qui est peut-être dans le texte une différence d'âge.
Oui.
Hein, parce que deux mineurs qui tombe amoureux,
oui,
et que le plus âgé devient majeur, si après il est poursuivi pour viol
ça
sur mineur...
C'est ce que, c'est ce qu'a, c'est ce qu'a
alors, indiqué. Moi, je voudrais quand même rappeler que là, ce sont des annonces de ministre, mais que c'est une proposition de loi, ce n'est pas un projet de loi,
absolument,
c'est une proposition de loi portée par les parlementaires, et les députés et les sénateurs. Donc il va nous appartenir à nous, les associations, les professionnels, de faire valoir aussi toutes ces questions-là.
Hein. Oui.
Et puis, dans cette, il va falloir aussi qu'on se pose la question des mineurs, hein, entre eux. Parce qu'il faut savoir que le nombre aujourd'hui, et nous, nous le savons par nos unités d'accueil, où nous recueillons la parole de l'enfant à l'hôpital, hein, les UAPED, par des gens formés, eh bien,
il y a des grands mineurs
de
qui
plus
peuvent
en
violer
plus,
des jeunes mineurs, des
il
jeunes
y a
enfants.
De plus en plus d'agressions, de oui, viols, de mineurs plus âgés sur de jeunes mineurs. Et là, il va falloir aussi que ça ait réflexion, qu'il y ait une réflexion et que ça fasse partie de la loi.
Alors, Muriel Salmona, vous êtes, je le rappelle, psychiatre, présidente de l'association Mémoire Traumatique et Victimologie. 15 ans, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'histoire de consentement. C'était le grand sujet de débat depuis maintenant
voilà,
plusieurs
oui,
mois. Il n'y aura plus d'histoire. En
voilà,
dessous de 15 ans, le consentement n'existe pas.
Oui, ouais, alors ça, c'était vraiment un élément extrêmement important. Et effectivement, on s'est battu pendant de nombreuses années pour obtenir ça. Parce que ça, c'était vraiment... c'était quasiment cruel et inhumain d'aller chercher...
C'était presque une anomalie française.
Oui.
Tous les
vraiment...
pays européens autour de nous avaient
non,
des soldats.
Non, il y en a qui sont en dessous encore.
Il y en a qui sont en dessous.
Il y en a encore qui sont en dessous, puisqu'on fait ce droit comparé avec des pays d'Europe.
Oui.
Il y en a qui, malheureusement, qui sont encore...
Et j'entends André Abescon qui dit qu'il y en a qui sont au-dessus encore.
Alors, oui, il y en a bien sûr qui sont
la
au-dessus.
La Belgique vient d'adopter 16 ans.
Oui, et puis surtout nous, on n'en avait pas de seuil d'âge,
oui,
c'est ça qui était complètement inadmissible.
Oui.
Alors nous, ce qu'on espère, c'est que ça concerne aussi les agressions sexuelles, parce que pour l'instant, on ne nous parle que de
c'est
pénétration.
C'est la question que j'allais vous poser,
nous
pour
aussi,
l'instant,
voilà,
les ministres
donc,
ont parlé de pénétration. Voilà.
Demandons hein, agressions sexuelles.
Oui. Et puis aussi, nous, on aimerait aussi qu'on considère, alors effectivement les mineurs, parce que c'est 25% des auteurs qui sont mineurs, et qu'on fasse un peu comme au Canada, où il y a une loi qui est très bien adaptée, avec des seuils d'âge aussi, par rapport à des crimes commis par les mineurs. Et puis on voudrait aussi qu'entre 15 et 18 ans, il y ait une spécificité par rapport à l'inceste, qui
oui,
est pas aussi de recherche de consentement par rapport à un adulte qui, avec un enfant qui est victime d'inceste. Et puis aussi au niveau de l'autorité. Enfin, on voudrait que disparaisse l'atteinte sexuelle. Voilà.
Andréa Bescon, peut-être une réaction sur ce point. Et j'ai envie de vous poser la question un peu provoque. Qu'est-ce qu'on a foutu tout ce temps? Qu'est-ce qu'on a foutu? Pourquoi on a attendu si longtemps?
Non, il y a eu des choses de fait. Moi, je ne peux pas accepter. Ça fait, la Voix de l'Enfant va fêter ses 40
oui,
ans cette année.
Mais je parle de la réponse gouvernementale.
Non,
c'est
mais
quand
la
même
réponse,
il
y a eu des lois quand même. Il y a
oui,
eu des lois qui ont permis d'avancer. Là, il y a une vraie volonté politique qui renforce
de non
et qui va plus loin.
Non. Non, mais seuil de non-consentement, rien n'existait. Donc, c'est une
non,
vraie
non,
avancée.
Non, là-dessus, je suis d'accord. Ça vient
voilà,
renforcer.
C'est très innovant. Ça vient renforcer. Ça vient naître, en fait, hein, en France,
oui,
qui est quand même assez dingue. Bon, maintenant, la seule chose que moi, j'aurais rajouté par rapport à Martine et Muriel, j'ai pas grand-chose à rajouter. Elles ont tout dit. Mais moi, il y a juste un terme qui m'a inquiété du garde des Sceaux hier, qui disait « dès lors que l'auteur des faits connaît l'âge de la victime ou ne pourrait l'ignorer. » Donc là, ça me pose un petit problème, cette phrase-là, parce qu'on se demande si, du coup, il n'y aurait pas une faille dans laquelle pourraient courir tous les agresseurs
oui,
en disant bah, « Moi, je n'étais pas au courant de son âge. Vous voyez bien que cet enfant de 12 ans est formé comme une femme de 20 ans.
Oui. »
Donc, il faut être extrêmement vigilant. Il faut une vraie tolérance zéro sur les viols et également sur les agressions sexuelles, puisqu'on sait très bien que des attouchements, qui est un terme horrible, mais en tout cas des caresses sexuelles sans pénétration sur un mineur de moins de 15 ans infligé par un adulte extrêmement traumatisant et peut désintégrer un enfant.
Il y a un vide, ça n'a pas été abordé oui, dans les annonces gouvernementales.
Oui, et puis je voulais justement pour rebondir sur ce que disait Andrea, qu'effectivement, par exemple, la loi canadienne stipule très précisément que c'est vraiment au majeur de vérifier l'âge,
oui,
l'âge des victimes.
C'est,
ça repose sur eux,
oui,
c'est leur
sûr,
responsabilité. Tandis que là, bon, les choses, bon, on va voir un peu comment ça va se présenter. Mais...
Alors, il y a une autre annonce qui a été saluée. Vous réagissez dans quelques secondes, Martine Brousse. Adrien Taquet, qu'on écoute, c'est sur la question du seuil de la prescription glissée. On va expliquer ce que ça recouvre comme expression.
La philosophie, c'est d'assurer une égalité de protection pour toutes les victimes d'un même auteur. Dans ces affaires-là, il y a souvent plusieurs victimes. Et ce qui se passe, c'est que souvent, la prescription est passée pour une grande partie d'entre elles, mais pas pour une. Nous allons adopter un mécanisme qui s'appelle la prescription glissante. Et en fait, c'est-à-dire que le mécanisme de prescription de la dernière victime va s'appliquer à l'ensemble des victimes du même auteur. Et ça va permettre à l'ensemble de ces victimes de pouvoir bénéficier d'un procès.
Voilà, ça n'est pas totalement l'imprescriptibilité, mais ça permet effectivement de rendre imprescriptibles des faits qui peuvent être commis au-delà de 30 ans, pour parler tout à fait simplement, Martine Brousse. Ça aussi, c'est une avancée importante.
Non, pas pour la voix de l'enfant. Pourquoi ? Parce que nous pensons que d'abord, l'imprescriptibilité, elle doit être réservée aux crimes contre l'humanité. Pour nous, c'est important. Et d'autre part, nous pensons et nous rejoignons, ça a été aussi une intervention d'Eva Thomas, qu'à un moment donné, il faut aussi une date butoir. Et la voix de l'enfant fait une proposition, certes.
Pour quelle raison vous pensez qu'il faut une date butoir ?
Pour ne pas que les victimes s'installent dans une victimisation. Nous voyons, nous, au travers, et pourquoi ? Il y a une autre raison beaucoup plus importante pour nous aujourd'hui.
Oui.
C'est que, vous dites, le gouvernement, oui, il y a une volonté. Il y a une volonté du président aujourd'hui de faire avancer les choses. Mais demain, il y a l'imprescriptibilité. Pourquoi mettre en place de la prévention ? Pourquoi mettre, on va attendre que les gens aient la force ou le pouvoir ?
C'est la prévention, c'est pas du curatif.
Nous misons tout sur la prévention dès le plus jeune âge, dès la maternelle jusqu'à la terminale.
Chaque année,
il faut qu'il y ait des professionnels qui passent dans chaque classe parler de ces questions. Et je peux dire ce qu'André a réalisé, qui sont trois petits livres absolument extraordinaires de prévention. Mais il faut, parce que tant qu'on ne parlera pas prévention, et c'est ce que nous allons demander dans cette proposition de loi, que la prévention soit au cœur du dispositif, parce que sinon on reste dans le répressif, et le répressif, vous l'avez souligné vous-même, Muriel Salmona et Andrea, on n'avance pas.
Vous n'êtes pas d'accord, Muriel Salmona,
sur ce
point.
De toute façon, l'État a des obligations internationales de prévenir, de prendre en charge les victimes, et de poursuivre et de punir les auteurs. Tout est au même niveau, et tout est nécessaire. La lutte contre l'impunité est très importante. Par ailleurs, là, par rapport à la prescription, nous, cette mesure, on l'a demandée. La prescription glissante, elle avait été votée, elle avait été proposée par un amendement du gouvernement en juin 2018, votée par le Sénat, elle a disparu en commission mixte paritaire. Donc elle revient.
Oui.
Par ailleurs, et c'est vrai que c'est une égalité des droits, parce que je veux dire, par rapport à des crimes qui ont été commis par un même auteur sur de nombreuses victimes, que des victimes restent en rade et ne puissent pas aller en justice, c'était une rupture d'égalité de droits.
Une forme d'injustice.
Voilà. Ouais. Donc nous, on voudrait aussi qu'il y ait une levée de prescription en cas d'amnésie traumatique, parce que là, c'est pas une position victimaire du tout. C'est des personnes qui n'ont pas la capacité de pouvoir porter plainte parce qu'elles n'ont pas accès à leurs souvenirs. Il faut qu'elle puisse le faire au moment où ça le revient. C'est lié au traumatisme, c'est pas dépendant d'elle, et c'est lié aussi à la gravité des crimes qui ont été commis. Et puis, je veux dire que pour pouvoir lutter contre l'impunité, on le sait, il faut pouvoir poursuivre les auteurs, même très longtemps après, puisqu'ils peuvent continuer à commettre des violences. Dernière chose, par rapport à l'imprescriptibilité, il n'y a que la France pour lesquelles la prescriptibilité est réservée aux crimes contre l'humanité. Dans tous les autres pays, il y a aussi les crimes de guerre. Il y a plein de pays où l'imprescriptibilité existe aussi pour tous les crimes qui sont considérés.
Les crimes de guerre, c'est autre chose. Et on sait pourquoi l'histoire ne peut...
Mais il ne faut pas dire que c'est que...
Pour les auditeurs, c'est important.
Muriel Salmona, non, mais on va laisser les crimes de guerre de côté, mais c'est important ce que vous dites. Il y a une imprescriptibilité pour des crimes type viol, inceste dans d'autres pays.
Oui, bien entendu. La Belgique vient de le voter. La Suisse l'a voté. Bien sûr, tous les pays anglo-saxons, ça existe. Et puis, le Conseil de l'Europe a voté une résolution de 1330 avec son assemblée parlementaire pour exhorter tous les pays, justement, à faire disparaître ces délais de prescription et à voter les imprescriptibilités.
Oui, sur ce point, je partage l'avis de Muriel Salmona, évidemment, je suis pour l'imprescriptibilité, parce qu'on parle de 10 millions de victimes, on est sur vraiment un crime encore, bon, j'ai utilisé ce terme de crime de masse, mais on est sur des violences systémiques, et surtout 10 millions de victimes, on n'est plus sur du cas isolé, on doit pouvoir apporter une réponse pénale, évidemment, et effectivement, par tous les angles, attaquer ce fléau, par la prévention, par la formation des magistrats, la formation de la police, oui. L'accueil. Enfin, tout est à faire, en fait. Donc, oui, l'imprescriptibilité, évidemment.
Pour se reconstruire, Andréa Bescon, quand on a été victime, c'est important, la condamnation de son bourreau. Ça fait vraiment partie du travail de reconstruction.
Sur le moment, moi, personnellement, je ne l'ai pas ressenti. Aujourd'hui, je le ressens. Aujourd'hui, je le ressens, puisque amener un agresseur en cour d'assises, ce qui était mon cas, oui. et pouvoir ouvrir cette boîte de Pandore où d'autres victimes ont pu s'exprimer et on a pu sauver des petites filles, oui, en fait.
Vous savez,
on a pu sauver des petites filles. Grâce à ça, on a pu sauver des petites filles, des enfants qui ne seront jamais agressés par cet homme-là. Donc, c'est très important. Bien. Ça aide à se reconstruire. Évidemment, on se sent mieux.
Martine Brosse.
On se sent utile.
Moi, je voudrais juste dire que de quoi est accompagnée la position de la Voix de l'Enfant, c'est que nous venons de faire un travail sur la possibilité d'une imprescriptibilité au niveau des procédures civiles. Pourquoi nous faisons cette proposition ? Parce que nous l'avons pratiquée. C'est-à-dire que nous avons aussi rencontré des victimes qui ne voulaient pas de procès public. C'est une cour d'assises, ça reste public.
Et donc, on peut choisir.
Non, mais Andréa, s'il te plaît, je voudrais parler. Je ne t'ai pas coupé. Andréa. Merci.
Mais c'est à huis clos. On peut choisir d'être à huis clos. Hein.
Oui, mais la plupart ne le font pas. Donc, parce qu'il peut y avoir aussi d'autres victimes.
Allez-y,
donc, nous proposons une imprescriptibilité dans le cadre des procédures civiles, ce qui fait que très souvent, les auteurs, là où nous avons accompagné les victimes, les auteurs ont reconnu, et la victime a été reconnue comme victime. Et plusieurs ont souhaité passer par cette démarche. Et donc, c'est une possibilité aussi. Car faisons attention, dès que le pénal s'engage, que tout d'un coup, des victimes qui ne voudraient pas participer ou avoir un procès, eh bien, se retrouvent embarquer dans un procès et mettre leur vie au grand jour et qui ne le souhaitent pas.
Alors, on va poursuivre sur la réponse pénale et sur la réponse judiciaire et ces annonces. Je voudrais simplement continuer à vous faire partager, parce que c'est aussi ça ce qui est en train de se passer en ce moment, un témoignage, celui d'un député de la majorité de l'Eure qui a beaucoup fait parler, car pour la première fois, il a raconté le viol dont il a été victime. Il avait 11 ans. C'est Bruno Questel, victime d'inceste. Il est au micro de Sonia Mabrouk. C'était il y a quelques jours.
À titre personnel, je n'avais pas besoin de m'exprimer pour être bien dans mes baskets. La vie, elle se construit jour après jour. Vous ne pouvez pas oublier, vous n'oubliez jamais. Et il est des moments, des microsecondes où vous vous retrouvez placé dans ce moment précis où vous n'êtes rien. Vous n'êtes qu'un morceau de viande pour la personne qui fait ça. Il faut le transcender. Il faut le transcender aussi pour celle ou de celui avec lequel vous vivez, parce que vous l'aimez, parce qu'il vous aime.
Voilà, c'est un témoignage évidemment très fort, Muriel Salmona, mais c'est important le témoignage pour qu'on comprenne de quoi on parle. Tout à l'heure, Andréa Bescon nous parlait de la proportion du nombre d'enfants, du nombre de Français qui sont touchés. Alors les chiffres varient, on parle de 10 à 20%. Il y a une image qui est terrible, c'est quand on voit une sortie d'école, ça veut dire que sur 200 enfants, il y en a potentiellement 10 ou 20 qui sont victimes d'agressions sexuelles ou d'inceste. C'est ça la proportion.
Oui, c'est ça. C'est une fille sur 5 et un garçon sur 13. Les chiffres qui sont en tout cas reconnus par l'ONU. On parle d'un enfant sur 5 aussi au niveau de l'Europe. Enfin, il s'agit de ces chiffres-là.
Est-ce que le silence aujourd'hui, qui a été celui de la société, je parlais tout à l'heure de silence coupable, pardonnez-moi si l'expression est un peu maladroite, est-ce qu'elle s'explique aussi par une culture bien française, la culture des années 70, qui a véritablement été une culture pro-pédophile ? Enfin, je veux dire, il faut appeler un chat
un chat. Oui, alors, c'est pas que les années 70, en tout cas, il y a cette culture, ce qu'on appelle nous la culture du viol, et puis il y a un côté totalement décomplexé, où il pouvait y avoir une sorte d'esthétisation, de théorisation des violences sexuelles sur les enfants.
Ce n'est pas tout à fait fini quand vous entendez Alain Finkielkraut qui parle sur LCI d'un adolescent de 13-14 ans et qui dit que ce n'est pas tout à fait la même chose qu'un enfant. On est quand même encore dans ce discours-là.
Et une sexualisation des enfants et vraiment une vision des enfants comme des objets sexuels, avec particulièrement toute une culture sexiste. Enfin, je rappelle que c'est les filles qui subissent le plus de violences sexuelles et toutes les personnes les plus vulnérables. Donc il y a un côté vraiment de position dominante qui se sert et qui exploite sexuellement les plus vulnérables.
Andréa Bescon, comment vous vivez ce qui se passe en ce moment, par exemple, à Sciences Po ?
Oh, écoutez, c'est vrai que l'arrêt de la complaisance, de cette complicité passive, évidemment, ça fait du bien, forcément, que enfin on paye les conséquences d'un silence complice. On ne peut plus se taire aujourd'hui. On n'a plus le droit. C'est fini.
Il a fallu attendre les années 90 hein, pour qu'il y ait une prise de conscience autour de la pédophilie. Ça a duré longtemps et je le disais, ça continue aussi encore aujourd'hui avec des propos choquants qu'on entend encore sur des plateaux de télévision ou des radios. Martine Brousse.
Tout à fait. Je pense que la Voix de l'Enfant, dans ses propositions au garde des Sceaux, après son audition, nous avons remis une note et au secrétaire d'État, parce qu'il va falloir aussi prendre des dispositions pour poursuivre, pour non-dénonciation. Car il est important, enfin, nous avons pu noter que très souvent, des membres de la famille sont au courant, des voisins sont au courant, ça se sait. Vous parliez de cette culture de après 68, mais on a aussi une culture très judéo-chrétienne, on lave son linge sale en famille, on n'en parle pas. Hein. Et puis si tu parles, ça va être ta faute si ton père va en prison et tout est à crédit, la maison, etc. Et donc, il y a cette espèce de qui fait peser, comme le disait Andrea, sur les épaules, sur le corps, sur toute la personne de l'enfant, cette responsabilité qui fait qu'elle ne peut pas parler, parce que elle va être doublement, triplement victime. Et puis, même quand elle parle, très souvent, on va lui reprocher que le père aille en prison, que le grand-père aille en prison. Donc, il faut qu'on lève tout ça et qu'on trouve des réponses alternatives à cela. Il n'y a pas un seul texte de loi qui va permettre, justement, ce que l'on souhaite toutes, même si on a des divergences, mais elles ne sont pas profondes en soi. Hein. Elles sont avant tout que de rechercher ensemble des réponses alternatives, parce que chaque victime est unique. Et donc, il nous faut apporter, sa famille est unique et il nous faut apporter des réponses.
Muriel Salmona, quand on sera dans un tribunal demain, après-demain, une fois que ces nouvelles mesures seront entrées en application, parce qu'il y a toujours la parole de l'adulte contre la parole de l'enfant.
Oui, alors d'ailleurs c'est souvent la parole du dominant contre celle qui effectivement est victime.
Est-ce que cette prise de conscience, cette libération de la parole, appelons ça comme l'on veut, ces nouvelles mesures, cette réponse pénale, est-ce que ça peut changer aussi la donne et le rapport de force?
Oui, parce qu'en tout cas ça peut permettre d'éviter plein de stéréotypes, de fausses représentations, d'agir, et puis du coup aussi de mettre en accusation en quelque sorte l'enfant, en tout cas la victime qui était enfant, Et puis, nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est que tous les troubles psychotraumatiques, tous les symptômes psychotraumatiques soient beaucoup plus repris et reconnus comme des preuves médico-légales. On travaille au niveau international avec Denis Mukwege, là, qui est prix Nobel de la paix, pour qu'au niveau international, ce soit le cas. Et là, parce que souvent, on reproche aux victimes des conséquences psychotraumatiques, des troubles psychotraumatiques, des réactions qui sont universelles et qui sont normales par rapport aux violences qu'elles subissent. On va la mettre en cause son récit de ce fait. Comme la sidération, la dissociation, la mémoire traumatique.
Andréa Bescon, on parlait de l'entourage. Est-ce que vous me permettez une question plus personnelle sur votre parcours? Je voudrais vous demander, vous répondez si vous avez envie de répondre, mais comment votre famille, vos parents, pour ceux qui n'ont pas vu le film Les Chatouilles, comment ont-ils réagi quand ils ont appris tout cela?
Évidemment, c'est compliqué pour tout le monde. Moi, j'ai quand même eu la chance d'avoir été soutenue quand même dans un premier temps par ma famille quand j'ai révélé les faits. Ils m'ont aidée à les porter plainte, donc j'étais soutenue par mes parents, vraiment. Après, il y avait des positions minimisantes de ma mère que je ne vois plus pour ces raisons-là. Mon père est toujours un peu dans une culpabilité et mon frère, lui, est très très fier. Voilà. Bon, après, c'est voilà, on a tous nos chemins, mais il y a des dommages collatéraux familiaux, des dommages collatéraux sur chacun de nous, en fait. Oui. C'est quelque chose d'extrêmement traumatisant pour toute la famille. Et encore, moi, j'ai pas été victime d'inceste, j'ai été victime de pédocriminalité dans l'extra-familial. C'est un ami de la famille. Et déjà là, ça a des conséquences absolument dramatiques. Donc, il faut aider les familles, les accompagner et vraiment faire comprendre les interdits, aider à les faire respecter et surtout accompagner les victimes quand elles sont...
Merci beaucoup, Andréa Bescon. Merci beaucoup pour votre témoignage. Très court, Martine.
Oui, non, juste
il nous
très
reste
court.
Quelques secondes.
Sur un enfant qui est devant une cour d'assises, c'est la terreur. Il faut qu'il soit systématiquement accompagné d'un avocat. Assisté dès qu'il commence à faire des révélations, il faut qu'il ait un avocat et un avocat formé et qui ne soit pas celui d'un ou des parents ou de quelqu'un, c'est son avocat pour lui.
Merci beaucoup pour ce débat. On continuera évidemment d'en parler, notamment dans Europe Soir. On a envie d'accompagner ce mouvement et cette libération de la parole. Merci.
Merci beaucoup.
Europe 1. Écoutez le monde changer.